but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambille.
Adiciats et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons en ce vendredi 20 octobre sur les ondes de Radio Occitanie. Alors aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Lorichès. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
Avec qui nous allons vous présenter son nouveau roman intitulé Un passant incertain, publié aux éditions Le Temps qu'il fait. Mais avant, la page info. Samedi 21 octobre à 16h à la salle de conférence de la librairie Ombre Blanche, 3 rue Mirepoix à Toulouse, les nouvelles éditions Loubatière vous présentent le livre Les métiers de l'aviation, histoire et patrimoine, en présence des auteurs, un livre qui rend hommage aux pionniers de l'aéropostale dont on fête cette année le centenaire du premier vol. Et puis une autre info, alors il va falloir choisir parce que c'est aussi samedi 21 octobre, c'est de 16h à 17h30 mais cette fois à la librairie Priva, rue des Arts à Toulouse, aura lieu la présentation du livre jeunesse Léo l'aviateur, le livre perdu de l'aéropostale, écrit et illustré par Adrien Poissier et Virginie Galigani, publié aux éditions Priva, là aussi un livre qui parle eh bien, de l'aéropostale, un hommage donc à ce centenaire, et cette fois dédié aux enfants, voilà. Et puis la troisième information, dimanche 29 octobre, de 10h à 18h, à l'hôtel d'Acesa, place d'Acesa à Toulouse, aura lieu la 12e édition des Gourmets de Lettres, placée sous l'égide de l'Académie des Jeux Floraux. Et Vincent Martorel, mon invité de septembre dernier, et sa Maison Jaune, son roman, seront présents avec bien d'autres auteurs. Il y aura des lectures, des rencontres, des conférences, un beau dimanche en perspective.
Page à page, Claire Ambille.
Merci à Edgar et à son élève pour la technique de mon émission de ce jour. Alors, Un passant incertain aux éditions Le Temps qu'il fait, de Jean-Yves Lorichès, donc ici présent. Alors déjà, ce livre, je viens d'obtenir un prix, le prix Jean Moret.
Oui, tout à fait, j'en étais très heureux. C'est un prix qui est décerné par un jury d'une manifestation littéraire qui a lieu à Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, chaque année, qui s'appelle les Vendanges littéraires.
C'est un joli nom, oui.
Donc, il décerne plusieurs prix, dont ce prix Jean Moret.
Un prix qui récompense plutôt l'écriture, l'histoire, enfin le livre en entier.
Oui, le livre en entier, aussi un peu l'ensemble des livres, d'ailleurs.
C'est le sixième roman.
Tout à fait.
Et oui, vous étiez venu la dernière fois à Page à Page pour La Loge de Mer, toujours publié aux éditions du Temps qu'il fait, hein, c'est votre éditeur habituel. Alors dans celui-ci, Le passant incertain, on y retrouve avec beaucoup de plaisir la belle écriture qui est, si je puis dire, la marque de fabrique de l'auteur. Avec une écriture avec des mots justes, des mots poétiques, des images et puis comme une petite musique et qui est fort agréable à lire.
Merci.
Et puis, il y a une photo de couverture qui illustre parfaitement ce roman singulier et un peu énigmatique. On y voit un homme de dos face à un paysage. C'est une photographie de Guillaume Amat. C'est vous qui l'avez choisi,
Jean-Yves ? Oui, c'est moi qui l'ai choisi. Comme toutes les couvertures de mes livres, puisque mon éditeur me fait toujours la confiance, en tout cas, de me demander une proposition de couverture. J'imagine que si elle ne lui plaisait pas, il la refuserait, mais jusqu'ici, ça a toujours bien fonctionné.
Ça colle parfaitement au passant incertain.
Et je l'ai choisi toujours après avoir écrit le livre.
D'accord, pour être vraiment en résonance parfaite. Et oui, en plus, c'est un bel objet. Les livres, je tiens à le signaler, tous les livres édités par Le Temps qu'il fait sont des jolis livres avec des belles couvertures cartonnées. Enfin, c'est un bel objet.
Voilà, il y a un goût du beau livre chez cet éditeur qui a longtemps, d'ailleurs, imprimé ses propres livres jusqu'à il y a une dizaine d'années où il a été obligé d'arrêter pour des raisons économiques.
Et
mais il était aussi imprimeur. Donc,
mais il garde cette passion d'imprimer des beaux objets. Alors, c'est un roman qui est écrit à la première personne du singulier et qui est composé de 4 parties. Alors, il émane de ce 6e roman, je trouve, un parfum de mystère, de nostalgie aussi avec les souvenirs, avec la notion du temps, et puis de poésie aussi, toujours, la poésie qui est toujours présente dans tous vos romans.
Oui, c'est un livre qui présente certaines affinités avec des livres précédents.
Oui, on va le voir,
sans doute. Mais en particulier, évidemment, cette orientation vers le passé, vers la mémoire, qui est quand même quelque chose qui me préoccupe beaucoup.
Et le temps qui passe.
Passé qui est généralement plein de trous, plein de lacunes, plein de secrets, plus ou moins dévoilés par le livre.
Donc c'est ça qui en fait un peu le mystère fait le mystère de ce roman. Alors, on y retrouve aussi la passion de la littérature et puis de belles descriptions de paysages à des saisons différentes d'ailleurs, l'été, l'hiver, on va le voir. Et puis, il y a donc, comme je disais, une certaine mélancolie avec le thème du temps qui passe, ce temps qui est vraiment omniprésent dans ce roman. Et aussi, il y a du suspense, si je puis dire, dans ce roman, dans ce 6e roman, une sorte d'enquête, de quête non pas policière, mais littéraire. Oui, donc c'est assez original, je trouve. Oui. Il a une construction originale, celui-ci.
Effectivement, c'est une construction qui s'est d'ailleurs élaborée de manière assez différente des livres précédents, où souvent je découvrais un peu au fur et à mesure de l'écriture du livre ce qui allait arriver. Et là, après un début qui était déjà écrit depuis plusieurs années,
qui dormait un peu dans un tiroir.
Et quand j'ai repris le livre, tout d'un coup, j'ai pensé à tous les déroulements et tous les rebondissements de l'intrigue.
Vous avez anticipé, en fait, cette fois-ci.
C'est la première fois que je crois que ça m'est arrivé dans l'écriture d'un livre de fiction. Et du coup, ça a été... Alors après, il y a des choses qui ont un petit peu changé en cours d'écriture.
Oui.
Mais vraiment, la trajectoire du livre m'était donnée d'un coup. Et ça, c'était assez sécurisant aussi pour moi, parce que j'ai finalement ensuite... Je me suis glissé dans cette voie que j'avais ouverte.
Voilà. Et vous avez... Donc c'est un livre qui est vraiment un peu différent des autres, l'écriture finalement. Alors c'est un livre avec une mise en abîme, je veux dire, histoire dans l'histoire, une histoire à tiroir, comme on dit, où le temps est vraiment presque un personnage à part entière. Le temps est vraiment...
C'est un livre sur un livre aussi.
C'est tout à fait ça.
Mon personnage découvre.
On va le voir,
Un livre et veut essayer de remonter à l'auteur de ce livre.
Donc, tout à fait.
C'est là qu'il y a effectivement une quête.
Alors il y a le temps qu'on pourrait dire comme un des personnages principaux, mais il y en a d'autres qui sont tout aussi, qui sont attachants, qui sont singuliers et qui sont tous animés de la même passion intemporelle, celle des mots, des livres, de la littérature. Ils ont tous cette passion commune, que ce soit le libraire, on va le voir, sa nièce, l'auteur lui-même, Paul Monestier, on va le voir.
C'est une sorte de petite société, finalement, qui se constitue par le fait du hasard, au moins hasard apparent, et qui partage effectivement cette passion du livre et de la littérature.
Tout à fait. Donc, il ne pouvait que me plaire énormément, ce livre, dans son histoire originale et puis son écriture musicale que j'aime beaucoup. Alors, la première partie de ce roman s'intitule Le Livre Jaune et on va de suite comprendre pourquoi. En fait, le narrateur, donc, il n'est pas nommé. Dans ce roman, tout est un peu flou. Les villes ne sont pas nommées, les gens ne sont pas nommés, sauf certains prénoms.
Sauf le narrateur,
il reste assez mystérieux. Et donc, il est professeur de français et passionné de littérature. Alors, c'est étrange parce que il me rappelle quelqu'un. Et puis,
il est professeur de français au lycée.
Oui, c'est vrai, c'est une différence qui a effectivement sa, son importance. Mais après, voilà, il y a
oui,
des... ça me fait penser à quelqu'un. Alors, il entre un jour dans une librairie, donc dans une ville qui n'est pas dans sa ville, hein, mais qui n'est pas nommée, et à la recherche d'un livre ancien, parce que c'est un passionné de livres anciens. Et il tombe par hasard sur un livre à la couverture jaune qui attire son regard, intitulé « Le passant incertain d'un auteur qui s'appelle Paul Monestier. » Alors, c'est un assez gros roman d'aspect banal et qui attire le narrateur de façon irrésistible, sans qu'il sache pourquoi.
Oui, alors ça, c'est, ça a vraiment été le point de départ du livre tout de suite.
Hein. D'être attiré.
Et c'est lié évidemment à une fascination personnelle hein, pour ces livres qu'on trouve dans les anciens, dans les librairies d'anciens ou d'occasion et qui sont pour la plupart, quand on y regarde de près, des livres complètement oubliés.
Oui.
C'est-à-dire que c'est qu'à l'origine, il y a cette un peu, alors vous parliez de mélancolie tout à l'heure, c'est effectivement une notion un peu mélancolique.
De nostalgie,
c'est l'idée à laquelle il faut quand même se résigner, c'est que les 9 dixièmes de la production littéraire sont voués à l'oubli. Et ça, c'est une idée qui, pour un écrivain, ne peut être évidemment qu'un peu mélancolique. Mais en même temps, l'idée, c'est aussi de retourner cela pour en faire justement un livre et en faire un objet d'imagination et d'écriture. Donc, retourner finalement cette idée de l'oubli de la littérature pour faire de la littérature.
Pour faire quelque chose de...
Voilà. Continuer quelque part l'histoire de la littérature.
Tout
parce que l'idée, c'est aussi que finalement, même les livres qui seront oubliés auront contribué de toute façon à continuer cette grande histoire
cette
de la littérature.
Grande, voilà, c'est, tout à fait.
Je crois profondément à ça.
Alors, c'est un roman oublié. Ben, tout à fait, il faut y croire. Mmh. C'est un roman oublié, donc un premier roman apparemment de cet auteur au nom inconnu. Mmh. Et le narrateur donc l'achète et puis, il a une jolie phrase, il croit à la fécondité du hasard. Mmh. J'aime beaucoup cette idée de... Voilà. Et puis, il plonge donc dans la lecture de ce roman. Il y passe d'ailleurs une nuit blanche et j'aime aussi ce qu'il en dit. Un livre résonne en moi si fortement que je ne peux reprendre une quelconque activité ou espérer trouver le sommeil sans l'avoir achevé. Et je trouve qu'on a tous vécu ça quand on plonge dans un livre, dans une histoire.
Ce qu'on appelle être pris par un livre.
Oui, c'est ça, d'être happé par.
Voilà.
Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Et peu importe que l'auteur lui fût inconnu, car il n'avait à m'offrir que ses mots. Ça aussi, je trouve que c'est beau.
Oui, parce que finalement, on se rend compte que lorsqu'on lit des livres d'auteurs connus du passé ou du présent, il y a toujours la figure de l'auteur qui est là,
c'est vrai.
Son image, ce qu'on sait de lui, et qui vient parfois parasiter finalement la lecture.
Tout à fait.
Et l'avantage là, c'est effectivement
cette figure
est absente.
Comme l'auteur est inconnu, voilà, donc
le livre
c'est que les mots, ce sont que les mots, ce ne sont que
se déployer complètement.
Ce n'est que le contenu vraiment vrai du livre. Alors le narrateur fait des recherches sur l'auteur de ce roman et il trouve d'ailleurs, il avait bien été l'homme d'un seul livre avant de tomber dans l'oubli, donc on a la certitude que voilà, il n'a écrit qu'un seul livre, cet homme. Et puis, l'idée de partir sur les traces de l'auteur du livre jaune, Paul Monestier, s'impose alors au narrateur.
Oui. Et là, il y a effectivement une sorte de paradoxe, parce qu'il y a à la fois ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire finalement ce livre qui est là sans aucune référence, sans rien qui puisse parasiter finalement à la lecture, donc la littérature, le texte pour le texte et pour lui-même, et en même temps, il y a chez mon narrateur une curiosité, même davantage, une forme d'attraction, de fascination par rapport à cette figure de l'auteur, précisément parce qu'elle est inconnue, parce qu'elle est absente.
C'est ça qui l'attire, c'est l'inconnu qui l'attire. Parce qu'il relit même le roman et il dit, derrière le livre, c'était l'auteur qui m'appelait.
Voilà.
Il y a vraiment une...
Et là, ça devient une quête de l'auteur, par-delà le livre.
Alors, l'histoire du livre jaune est celle, n'est pourtant, enfin, apparemment, apparence banale, c'est celle d'un fonctionnaire au cadastre qui est non nommé là aussi, qui vit dans une petite ville du centre de la France qui n'est pas nommée elle non plus, et donc tout est apparence sans histoire, mais l'auteur laisse planer un clair-obscur dans le récit avec un mystère entourant la vie de cet homme et qui est subtilement entretenu par le style d'écriture, son style d'écriture.
Oui. Alors effectivement, la difficulté, c'était de donner à ce livre et surtout à son auteur une certaine forme d'existence, sachant que ce sont des livres des auteurs imaginaires.
Tout à fait.
Et en même temps, de leur laisser une sorte de mystère. C'est-à-dire que il faut, voilà. Il s'agissait pas d'arriver à une identification. C'est pour ça que c'est pas une enquête policière où,
au bout du livre, il y aurait une vérité. Non, pas du tout.
Et au contraire, plus on s'avance finalement. Alors, à la fois, on découvre.
Et moi, on en
événements.
Sait, des fois.
Ben, à la fois, on va apprendre des choses, même parfois surprenantes.
Oui,
en même temps, ça reste, au bout du compte, très, très mystérieux.
Voilà, c'est vraiment le mot qui me vient à l'esprit, c'est le flou. Et puis, le clair-obscur, bon, qui en peinture, on sait, voilà, ça évoque tout à fait cet état. Et puis donc, c'est un livre aussi qui induit la nécessité d'une suite.
Oui.
C'est, le lecteur reste un peu sur sa fin, entre guillemets, mais cela ne le gêne pas du tout notre narrateur, qui lui apprécie justement cette ombre à venir, suggérée par le style singulier de l'auteur.
Ce livre dont il est question dans le livre, c'est-à-dire qui s'intitule Le passant incertain et non pas Un passant incertain.
Le vote, c'est un
passant
incertain.
Voilà, il y a un petit écart
comme ça.
Et ce livre, effectivement, dont je ne dis que simplement quelques grandes lignes. Je n'allais pas écrire un livre dans le livre. Donc, il fallait que ce livre lui-même reste un petit peu mystérieux.
Oui.
Et en même temps, c'est justement une des manières de préserver son mystère, c'est aussi de suggérer que ce livre va quelque part et qu'on ne sait pas où. Effectivement, qu'il appelle une suite et que cette suite n'a jamais été écrite. Du coup, le livre dans le livre reste ouvert.
Oui, voilà, ça reste un peu en suspens, en suspension un peu.
Et il appelle aussi une suite, du coup, peut-être. Voilà.
Peut-être, ou pas. Alors, le narrateur part donc sur les traces du passé, si on peut dire, parce que ça date des années 30. Le livre a été achevé d'imprimer en 1935. Et il dit « prêt à me glisser dans le temps comme entre les pages d'un livre ». Je trouve que c'est joliment illustré.
Oui, ça, je crois que c'est, cette expression... pourrait valoir pour plusieurs de mes livres, c'est cette idée de se glisser dans le temps. Dans le temps, il se trouve que là, en plus, le temps est un livre, par ailleurs. C'est ça qui est différent par rapport à des livres antérieurs, c'est que,
comme j'ai dit,
d'où cette image de la remontée du temps comme une traversée des pages.
Comme une traversée des pages d'un livre. Oui, le temps est vraiment omniprésent dans ce sixième roman, tout à fait. Alors, la deuxième partie est intitulée « Au pays ». O-H-A-U-T, le haut pays. Donc, il y a de très belles descriptions de paysages de Causse qui rappellent son enfance, son narrateur, même si les lieux sont différents. D'ailleurs, il dit quelque chose de très beau et de très vrai. Tous les pays d'enfance se rejoignent. C'est vrai, ça.
Oui, je le pense. Parce qu'ils sont imaginaires, en fait.
Oui, voilà, tout à fait. On se rappelle, il y a des souvenirs qui sont vrais, mais il y a beaucoup d'imaginaires autour.
Voilà, et cet imaginaire est commun, je crois,
à l'enfance, tout à fait. Donc, le thème du temps est là, comme je le disais, très présent, très central, avec le souvenir, et ses souvenirs d'enfance aussi. À un moment, il dit « J'ignorais que ni muraille, ni pont-levis ne protègent des longs assauts du temps ». Et oui, parce qu'il était passionné de château fort, tout à fait. Donc, il arrive dans cette petite ville avec une jolie cathédrale, la ville où a vécu Paul Monestier, l'auteur du livre jaune. Et il dit, c'est en promeneur nonchalant que je désirais aller à la rencontre d'un homme qui avait laissé si peu de traces de sa vie, de l'approcher comme un ami, et à tel point que le narrateur arrive même à avoir des visions de Paul Monestier déambuler sur la place de la petite ville.
Oui, alors il y a effectivement des petits dérapages comme ça à un certain moment vers le fantastique. Alors on ne sait pas très bien si c'est dans la tête évidemment du narrateur, mais
parce qu'il est très investi.
Voilà,
de cette
mais en même temps ça peut donner le sentiment effectivement d'un peu d'irréel qui se glisse dans le réel.
Oui, tout à fait.
Je crois que c'est une manière de suggérer, je pense, cette dimension du temps, parce qu'à partir du moment où de toute façon on est dans la quête du passé, on est dans la quête de quelque chose qui n'est plus.
Et donc
on est finalement déjà un peu dans le fantastique. On est en tout cas dans des images, mémoire, et on n'est plus dans la réalité.
Parce qu'il le voit en noir et blanc, il le voit comme les photos.
On n'est plus dans la réalité. Dès qu'on n'est plus dans la réalité présente, matérielle, concrète, on est déjà un peu dans le fantastique. En fait.
Tout à fait.
C'est ça que ces apparitions de Monestier ou ces petites hallucinations très ponctuelles du narrateur.
Oui, quand il est sur cette place. Alors, le présent et le passé se mêlent, ce sont deux époques différentes, les années 30, justement, et puis donc les années d'aujourd'hui, les années où le narrateur est bien présent sur cette place de cette ville. Et il rencontre d'ailleurs un libraire, encore un, encore un libraire, qui vend des livres anciens et qui justement, comme le narrateur, s'intéresse à Paul Monestier et à son unique roman Le Passant Incertain.
Voilà, alors là, il y a aussi des coïncidences, il y a aussi
la
fécondité du hasard joue
parce qu'effectivement,
il tombe juste sur quelqu'un qui connaît le livre, qui doit être un des rares dans la ville
à connaître
ce livre. Voilà,
qui est intéressé aussi par l'auteur et son peu de choses qu'on sait sur lui.
Je crois un peu aux attractions, je crois un peu à ce que les surréalistes appelaient, à ce qu'André Breton appelait le hasard objectif, c'est-à-dire le fait que des hasards en fait apparents sont en fait déterminés par des désirs qui convergent.
C'est cette
idée qu'il n'y a pas de hasard, mais qu'en fait la réalité vient au devant de nos désirs.
C'est tout à fait ça. Oui, ça fait penser à ça. Et donc il rencontre même la nièce du libraire qui s'appelle Sabine et dont il dit et ses yeux qui lui mangent le visage. Et puis le libraire donne même au narrateur un dossier qu'il a fait sur Paul Monestier, dont il dit qu'il y avait la poignante odeur des maisons abandonnées. J'aime cette idée de du vieux dossier un peu poussiéreux qui sort d'un tiroir.
Alors c'est là que les livres communiquent entre eux, même entre des livres qui sont des fictions comme celui-ci et des livres comme Placemonge, par exemple, mon premier roman, qui est fondé sur des archives bien réelles, qui sont des archives
de votre famille,
de ma famille, de mon grand-père, etc. Mais justement, ce qui m'a plu dans ce livre-là, c'est d'inventer finalement des archives et non plus de travailler, de rêver, je les invente, je les fabrique. Mais elles ont la même odeur finalement que les archives que j'ai trouvées dans la maison de famille, que les réelles.
Ce sont des photos en noir et blanc ici dans ce roman, des articles de journaux, et le narrateur dit d'ailleurs: je songeais avec mélancolie au peu de traces que laisse une existence. C'est vrai, ça fait un peu peur d'ailleurs. Alors on apprend aussi que l'auteur est mort jeune à la Libération après la Seconde Guerre mondiale et c'est une mort assez floue et assez énigmatique. Et puis le narrateur se rend à la Villa des Marronniers, là où a vécu l'auteur, et cette maison est abandonnée maintenant, et elle respirait l'abandon comme si cachée à la vue des passants. Elle n'avait plus à tenir son rang, la bâtisse était solidement refermée sur sa mémoire. J'aime beaucoup cette description de cette maison, elle me rappelle des images d'enfance de
je pense que ça rappelle beaucoup des images comme ça de lieux abandonnés.
Tout à fait. J'ai beaucoup aimé.
Qui sont des lieux un peu tristes, mais en même temps une tristesse qui n'est pas négative, qui est plutôt une sorte de nostalgie.
Parce que c'est bien aussi de pouvoir se réfugier dans des souvenirs, des images de maison, parce qu'elles ont toutes un peu le même parfum, la même apparence. Et puis il va aussi à l'appartement où avait vécu aussi Paul Monestier. Et là, il y rencontre par hasard la nièce du libraire.
Encore un hasard,
une coïncidence, encore des étonnements, un étonnement de plus, parce qu'il y en a de multiples dans ce roman. Et puis il y a aussi l'irruption de l'histoire avec un grand H dans cette quête littéraire, on parle de la Seconde Guerre mondiale, de la libération, de l'épuration,
violence de la libération.
Faut pas oublier que ça a été violent, la libération. C'est une libération, mais il y a eu beaucoup de violence.
On en voit souvent le côté évidemment très positif, la fin de l'occupation, etc. Mais en réalité, c'était aussi une période de grande violence dans la mesure où l'être humain est ainsi fait. Il y a des vengeances, il y a des règlements de compte, des actes de justice qui me paraît important dans le livre, c'est justement, et c'est pour ça que je l'ai situé dans les années 30 et effectivement il se finit aussitôt à la fin de la guerre. C'est aussi ce lien entre la littérature et les événements historiques, le fait que les écrivains dans certaines, en tout cas dans certaines époques, sont aussi confrontés à la violence de l'histoire, et que parfois même cette violence de l'histoire peut les précipiter dans l'oubli, voire dans la mort. Donc c'est aussi une dimension tragique de la
littérature, de la littérature.
Dans la mesure où elle n'échappe pas à l'histoire, bien sûr, hein, bien sûr.
Oui, bah oui.
Voilà.
Oui,
alors il y a des époques plus tranquilles que d'autres. La nôtre, ce côté-là, dans nos pays en tout cas, n'est pas trop violente. Mais voilà, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des périodes très différentes.
Tout à fait. Donc il y a voilà de l'histoire dans l'histoire, de l'histoire avec un grand H. Voilà. Et puis alors, on ne va pas tout dévoiler parce qu'il faut en laisser pour le futur lecteur. Et il y en a beaucoup à découvrir, ça c'est sûr. Mais il y a une phrase qui va terminer un petit peu cette présentation pour après vous poser deux questions. C'est les histoires, deux phrases exactement. Les histoires de famille sont faites de ces legs invisibles. Je trouve que c'est très vrai et très joliment dit. Oui. Et puis cette dernière phrase qui clôturera cette présentation, et pour que tous aient connaissance de cette histoire et que je puisse la déposer enfin dans le lit défait du temps. Je crois que c'est la phrase de fin qui clôt la présentation de ce livre où le temps justement est un personnage capital.
Le temps et l'idée aussi
de poursuivre,
de réparation aussi.
Oui, réparation.
Il y a quand même
aussi.
Sans entrer dans le détail, mais il y a quand même l'idée un peu de réparer une injustice justement de l'histoire et le narrateur prend cette réparation en charge. Par des moyens qu'on ne dévoilera pas, complexes, disons.
Ah oui, c'est complexe, oui.
Et peut-être critiquable d'ailleurs, mais en tout cas qui...
Non, parce que c'est bien fait, je trouve.
Qui témoigne en tout cas d'une
du
volonté
désir
de réparer quelque chose.
Voilà, tout à fait, et de poursuivre, d'aller au-delà de ce qui a pu se passer.
Et de le faire par la littérature et par l'écriture.
Oui,
c'est-à-dire c'est la littérature qui peut sauver la littérature.
Donc le temps et la littérature sont un des deux personnages, des personnages très importants de ce roman. Alors ce livre singulier est différent donc des autres dans son écriture, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous tenez particulièrement à cœur, Jean-Yves ?
Ce livre ?
Oui, livre, celui-ci, là.
Tout à fait.
Oui,
me tenait à cœur. C'est un livre qui, je l'ai rapidement dit tout à l'heure, mais dont le début a été écrit il y a déjà plusieurs années.
C'est un livre qui était un peu en suspens
parce qu'effectivement, j'étais avec mon personnage qui voulait partir en quête de cet auteur oublié, mais où allait-il aller ? Qu'est-ce qu'il trouverait au bout de ce chemin ? Et c'est quand j'ai trouvé effectivement ce chemin-là, qui passe effectivement par à la fois la découverte d'un certain nombre de drames et en même temps cette quête non seulement d'une connaissance de cet auteur oublié, mais aussi d'une réparation de l'oubli. C'est à partir du moment où j'ai eu vraiment ce canevas dans la tête que le livre s'est écrit, et avec beaucoup de plaisir d'ailleurs. Et il était important pour moi parce que c'est un livre qui parle de la littérature quelque part.
C'est-à-dire de la littérature, de l'écriture
mais à travers une situation romanesque, pas d'une manière abstraite, mais à travers une
situation. En tout cas, merci beaucoup Jean-Yves pour ce magnifique roman intitulé donc Un passant incertain aux éditions Le Temps qu'il fait. D'autres projets d'écriture, j'imagine ?
Oui, il y a un travail qui est fini, mais qui ne paraîtra pas avant 2018. Bon. Mais voilà, il ne faut pas.
Vous
non
reviendrez
plus,
nous
vite.
En parler
voilà,
à page
voilà,
à page.
Voilà, tout à fait. Mais qui est tout à fait différent.
Ah, d'accord.
Qui est
chez le même éditeur ?
Non, ce sera chez un autre éditeur.
Ah, d'accord.
Pour une fois.
Et différent.
Pour dire les choses très vite, c'est une rêverie et une fiction à partir d'un tableau, en fait. Donc, on retrouve quand même des choses qui m'intéressent.
Peinture,
le rapport à la peinture.
La loge de l'air,
voilà,
par exemple.
Voilà, tout à fait. Voilà, on retrouve ce.
Le cinquième roman, tout à fait, là où la peinture était. Alors, merci beaucoup, Jean-Yves. Alors, on se retrouve le vendredi 22 décembre pour la dernière... qu'est-ce que je raconte ? On est en novembre. Ouh là là, je me crois déjà. On se retrouve le 24 novembre et je recevrai à 14h30 sur Radio Occitanie et je recevrai Carole Laborde pour son nouveau roman. Et on se quitte avec une chanson. Alors Edgar, peux-tu nous dire, me rappeler ce que c'est?
C'est Powaf qui chante Rêve.
Voilà, rêve, rêverie, ça va un peu avec le, avec ce roman aussi. Merci, Adiciat.
Rêve m'a réveillé,